de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir à toutes et à tous, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Chers amis, bonsoir. Voici le bulletin de l'information. Tout d'abord, les titres de l'actualité. Le président Joko Widodo vise une croissance économique de 4,5 à 5,5% en 2021. La Nouvelle-Zélande prolonge le verrouillage de la ville Auckland le 12 jours. La mairie de Tel Aviv allume les lumières formant le drapeau des Émirats Arabes Unis. BKPM, les entreprises sud-coréennes ont le plan de déménager leur investissement à Batang. Paris et Marseille ont été déclarés zone à haut risque pour le COVID-19. Voici le bulletin complet. Le président Joko Widodo vise la croissance économique de l'Indonésie entre 4,5 et 5,5% en 2021. Le président Joko Widodo, dans son discours, a présenté le projet de loi sur le budget des recettes et des dépenses de l'État 2021 et les notes financières à la session plénière du Parlement de la République d'Indonésie pour la session 2020-2021 au bâtiment du Parlement à Jakarta. Il a confirmé vendredi que le taux de croissance économique devrait être soutenu par une augmentation de la consommation intérieure et des investissements en tant que principal moteur. Selon le président, l'inflation sera maintenue à un niveau de 3% pour soutenir le pouvoir d'achat des citoyens. Cependant, le taux de change de rupiah devrait évoluer dans une fourchette de 14 600 rupiahs pour un dollar américain. En outre, le taux d'intérêt à 10 ans des titres d'État est estimé à 7,29%. Le prix du pétrole brut indonésien est estimé à environ 45 dollars américains par baril. Le premier ministre néo-zélandais Jacinta Ardern a annoncé une prolongation de verrouillage de la ville Auckland pour les 12 prochains jours afin d'empêcher la propagation du coronavirus. Ardern a déclaré lors d'une conférence de presse vendredi, comme l'a rapporté l'AFP, que le cabinet avait accepté de prolonger le verrouillage de 12 jours supplémentaires, portant le total à 2 semaines. Auparavant, le gouvernement avait imposé un verrouillage sur Auckland pendant 3 jours depuis mercredi. Mais l'apparition de nouveaux cas au cours des 3 derniers jours a poussé le gouvernement a décidé de prolonger le verrouillage. La mairie de Tel Aviv allume les lumières pour former le drapeau des Émirats Arabes Unis suite à l'accord de normalisation des relations entre la monarchie arabe et Israël. L'accord historique a été conclu après avoir été négocié par les États-Unis qui sont un allié des deux. Reportage de la page Al Arabiya, vendredi, les lumières sous la forme du drapeau émirien alternent avec le drapeau israélien. Précédemment, une scène similaire s'était également produite lorsque Israël a montré sa solidarité avec le Liban après qu'une explosion dévastatrice de 2700 nitrates d'ammonium a secoué le pays. Israël et les Émirats arabes unis sont parvenus jeudi à un accord de paix historique qui conduira à la normalisation complète des relations diplomatiques entre les deux pays du Moyen-Orient dans un accord négocié par le président américain Donald Trump. Le Conseil de coordination des investissements, BKPM, a déclaré qu'une société sud-coréenne active dans l'industrie du verre prévoyait de déménager son investissement dans la zone industrielle intégrée de Batang, Jawa Sangkal. Le directeur de la promotion sectorielle de BKPM, Imam Suyudi, dans une déclaration écrite à Jakarta vendredi, a déclaré que le sérieux intérêt manifesté par la société sud-coréenne avait été immédiatement répondu par l'équipe du groupe de travail sur la réinstallation des investissements. Bien que toujours en mobilisation limitée en raison de la pandémie de COVID-19, BKPM fournit toujours une assistance complète à l'entreprise. En principe, le gouvernement indonésien répondra aux besoins de l'entreprise pour réaliser immédiatement son plan de déménager des investissements en Indonésie. Le gouvernement français a annoncé vendredi que Paris et Marseille et leurs environs étaient des zones à haut risque pour la transmission du nouveau coronavirus COVID-19. L'attribution de statut a donné aux autorités de Paris et de Marseille le pouvoir de faire appliquer les restrictions sociales locales pour contenir la propagation du COVID-19. L'annonce a été faite dans un décret gouvernemental à la suite de la forte augmentation du nombre de cas de COVID-19 en France au cours des deux dernières semaines. Jeudi 13 août, la France a signalé plus de 2500 nouveaux cas de COVID-19 pour la deuxième journée consécutive. Chers amis, c'était le bulletin de l'information de la Voix de l'Indonésie, Jakarta.
Commémoration du 75e anniversaire de l'indépendance de la République indonésienne en 2020. Sur le thème, l'Indonésie va de l'avant. La longévité pour la République indonésienne.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie. La première info est venue de Makassar, Sulawesi Sud. Le gouverneur de Sulawesi Sud, Nurdin Abdullah, a lancé l'utilisation de la voiture d'essai sur l'écouvillon PCR COVID-19 au bureau de gouverneur de Sulawesi Sud à Makassar, mercredi. Nurdin Abdullah a déclaré que la présence de la voiture était un effort pour effectuer des tests rapides et massifs. À cette occasion, le gouverneur a lancé deux voitures. Chaque voiture est reconnue pour pouvoir examiner jusqu'à 8 échantillons simultanément et produire des résultats dans une heure. Cependant, le chef du service de santé de Sulawesi Sud, Ihsan Mustari, a déclaré qu'une voiture serait utilisée pour aider à la gestion d'urgence de COVID-19 à l'hôpital, tandis que l'autre serait utilisée pour aider à vérifier COVID-19 dans le district. Ensuite, l'info de Gianyar, Bali. La résidence Gianyar a ajouté 4 nouveaux villages touristiques et un sous-district touristique pour augmenter le potentiel local en tant que moyen de développer des entreprises économiques conjointes et d'augmenter les revenus d'origine du village dans le cadre de l'entreprise villageoise, soit BUMDES. Le directeur du bureau touristique de Gianyar à Aputrawan, dans un communiqué de presse le mercredi 12 août, a remis le décret du village touristique 2020 pour le village Manukaya, le village Tampak Siring, le village Sayan, le village Bedulu et sous-district Beng dans le parc Prakerti Buana au village Beng, Gianyar. En l'établissant en tant que village touristique, la communauté locale devrait être en mesure de développer le potentiel ou la sagesse locale dans chaque village, à la fois sous la forme d'un potentiel pour la beauté naturelle et les arts culturels. La dernière info est venue de Tulungagung, Javaès. Un groupe de jeunes membres du poste de service technologique Kedung Jaya à Tulungagung, Javaès, a réussi à développer une technologie de convoyeur de chauffage anti-COVID-19 équipée d'une lumière ultraviolette pour tuer les germes, les bactéries et le virus corona. Selon l'explication du secrétaire du poste de service technologique Kedung Jaya Masuri, le dispositif de la taille d'une mini fraisseuse à riz mesurant 1 mètre de long, 1 mètre de haut et 40 cm de large a été spécialement conçu pour maximiser la prévention de la propagation du virus corona à travers divers objets apportés par les résidents. Le fonctionnement de l'outil qui combine le concept et le fonctionnement du convoyeur avec le ciblage du scanner et le chauffage à température ambiante est censé réduire ou minimiser l'utilisation de désinfectants non respectueux de l'environnement. Selon Masuri, l'appareil devrait être placé à l'entrée d'un meuble du bureau d'établissement d'enseignement scolaire dans des lieux bondés tels que des bâtiments sportifs, des stades et des sites touristiques. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 15 août. Le 15 août 1914, le canal Panama a été ouvert à la navigation. Le canal Panama est un canal qui traverse l'isthme du Panama sur 82 km, traverse l'Amérique du Nord et du Sud et relie les océans Pacifique et Atlantique. Ce canal réduit le temps de trajet des navires, car il n'est pas nécessaire de faire une boucle à travers la pointe sud de l'Amérique Sud. Les plans de construction de ce canal sont apparus dans les années 1500, mais la construction n'a commencé qu'après la construction réussie du canal Suez. Enfin, le canal Panama fut achevé et inauguré officiellement le 15 août 1914. Le 15 août 1962, la signature de l'accord de New York. L'accord de New York est un accord conclu afin de transférer le pouvoir sur l'Irian occidental des Néerlandais en Indonésie. L'accord de New York a été conclu à l'initiative du diplomate américain Ellsworth Bunker, car il a vu que la bataille sur l'Irian occidental ne s'est jamais terminée. L'un des résultats de l'accord de New York a été un cessez-le-feu et le transfert du pouvoir sur l'Irian occidental des Pays-Bas à l'Indonésie. Ce problème a commencé lorsque les Néerlandais ont promis de résoudre le problème de l'Irian occidental dans un délai d'un an au moment de la reconnaissance de la souveraineté indonésienne lors de la table ronde à La Haye le 2 novembre 1949, mais jusqu'à 12 ans plus tard, à savoir 1961, ce problème n'a pas été résolu. Cela a poussé la République d'Indonésie à prendre des mesures importantes pour libérer l'Irian occidental des mains des Néerlandais. Les mesures prises sont la diplomatie, la confrontation et les opérations militaires. Le 15 août 2005, l'accord de paix d'Aceh est signé à Helsinki, Finlande. L'accord de paix d'Aceh est un accord qui met fin au conflit dans la province de la région spéciale Aceh. Ce conflit a commencé en 1975, lorsque Hassan Tiro a mené un mouvement de mécontentement contre le gouvernement indonésien de l'époque, était devenu une zone d'opération militaire par le gouvernement au pouvoir pour mettre fin au conflit à Aceh. Cependant, le grand tremblement de terre qui a suivi avec le tsunami en décembre 2004 avait poussé le mouvement Aceh et le gouvernement de l'époque a mené des négociations pour mettre fin au conflit qui avait duré plus de 25 ans. Le 27 février 2005, le mouvement Aceh et le gouvernement indonésien ont entamé la phase de négociation à Vantaa, en Finlande, avec le facilitateur de l'ancien président finlandais, Martti Ahtisaari. Enfin, le 15 août 2005, la signature d'un mémorandum d'accord de paix a eu lieu. Le processus de paix est ensuite suivi par une équipe, la mission de surveillance d'Aceh, qui comprend 5 pays de l'ASEAN et plusieurs pays membres de l'Union européenne. Chers amis, c'est l'histoire d'aujourd'hui.
Jiwaku terpaku padamu. Saat jumpa engkau senja itu, ku hela nafasku dan memutuskan.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
C'était la première chanson indonésienne. J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. La rubrique suivante, voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec mon Indonésie et en beau titre, le gouvernement provincial de Bangka Belitung transforme l'extraction de l'étang en une entreprise touristique. Le gouvernement provincial des îles Bangka Belitung transforme le secteur minier de l'étang en tourisme. L'effort de détournement vise à accélérer le développement et l'économie des habitants de l'île qui produit le plus gros minerai d'étang du monde. Le gouverneur des îles Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Johan, à Pangkal Pinang, a déclaré que le tourisme en tant que substitut à l'extraction de l'étang est la meilleure solution pour le bien-être de la communauté à l'avenir. Erzaldi Johan a expliqué que l'étang est devenu le premier secteur à Bangka Belitung il y a plus de 300 ans. Cependant, le gouvernement provincial des îles Bangka Belitung ne peut pas dépendre entièrement de l'exploitation minière, étant donné que l'exploitation minière est une ressource consommable et non renouvelable. Lorsque la mine est épuisée, il n'y a pas de substitut. En outre, le gouvernement sera également confronté à de grands et difficiles défis dans la gestion des zones endommagées par l'exploitation minière. Erzaldi a déclaré actuellement l'exploitation minière n'est plus le favori. Erzaldi a expliqué que le tourisme à Bangka Belitung peut être un secteur promoteur car il peut produire des effets multiples. Si le tourisme peut être très bien géré, il augmentera d'autres secteurs tels que l'agriculture, la pêche, les micro, petites et moyennes entreprises, MPME. Si on est doué pour le gérer, le tourisme aura 2 à 3 fois l'impact du secteur minier. Actuellement, Bangka Belitung a été décidé par le gouvernement central de devenir l'une des destinations touristiques prioritaires de l'Indonésie. Sur la base de la publication du ministère du Tourisme, les 10 endroits qui sont devenus des destinations touristiques devraient pouvoir amener des touristes étrangers en Indonésie. Par conséquent, le gouvernement provincial des îles Bangka Belitung se concentre maintenant sur le secteur du tourisme et commence à s'intégrer à d'autres secteurs. La connectivité entre Bangka et Belitung est encore renforcée afin que les touristes puissent explorer la beauté de Bangka Belitung et prolonger ainsi leur séjour. Erzaldi a expliqué que Bangka Belitung compte 950 îles entre les deux îles principales, Bangka et Belitung. Il reste encore beaucoup de choses à explorer. Actuellement, seules 50 îles sont habitées et celles qui ne sont pas encore occupées ont de nombreux endroits magnifiques. Selon Erzaldi, pendant cette pandémie, Bangka Belitung faisait partie des 5 provinces où le gouvernement s'est concentré sur l'ouverture précoce de son tourisme, car cette région était très réputée pour son tourisme de plein air. Chers amis, c'était mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
From Indonesia.
aku tak pernah begini. Jantungku berdetak sangat kencang saat ku melihatmu. Wahai elok parasmu, membuatku menjadi gemeteran saat ku memandangmu. Tapi ku takut ketemu kamu, sang pujaan hatiku. Oh Tuhan, kirim cintaku untuknya. Oh Tuhan, kirim pesanku untuknya, agar dia tahu betapa ku jatuh cinta. Ku menjadi gemeteran saat ku memandangmu. Oh, tapi ku tak ketemu kamu. Pujaan hatiku. Oh Tuhan, kirim cintaku.
Bon, chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz, 4750 kHz et sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Informant sur la beauté de la plage Kikihiu, soit dans des récents à Lampung, précisément au sous-district Kelumbayan, en région Tanggamus. Cette plage s'appelle la plage Kikihiu, soit dans des récents, à cause de rochers qui ressemblent à une rangée de dents sur un requin. De plus, cette plage s'appelle également la plage Batu Layar. Le nom est dû à la roche qui se dilate pour former comme un voilier. « Contrairement aux plages en général qui ont en moyenne une large étendue de sable en pente, la plage Guiguiu, située à environ 80 km de Bandar Lampung, n'a pas de sable. Cette plage est en fait remplie d'étendues rocheuses artistiques qui sont naturellement dispersées le long de la côte. Les eaux autour de la côte sont remplies d'amas de roches coralliennes qui s'élèvent entre 1 et 10 mètres. La vue sur les embossants groupes de roches comme des griffes géants émergeant de l'océan est ce qui fascine les visiteurs. Les rayons du lever et du coucher de soleil rendent également la plage Guiguiu encore plus charmante. La plage Guiguiu est ouverte 24 heures pour les touristes. Pour accéder à la plage Guiguiu, les visiteurs doivent payer un billet d'entrée de 10 000 rupiah. Cette plage n'est pas équipée d'hébergement, de restaurants et d'autres installations. Parce que l'emplacement de la plage Guiguiu est éloigné et que le trajet jusqu'à la plage Guiguiu est loin et difficile, cette plage n'est pas visitée par le nombre de touristes. Avec le silence de cette plage, son authenticité est maintenue. Les visiteurs qui viennent peuvent profiter de la plage plus confortablement. Cette plage est également surnommée le paradis caché, car elle est considérée comme une beauté cachée dans son isolement. Avant de visiter la plage Guiguiu, plusieurs éléments doivent être pris en compte. Visiter pendant la saison sèche, car les routes ne sont pas trop glissantes. Soyez prudent autour de la plage Guiguiu, car les coraux sont assez pointus. De plus, vous devez préparer l'alimentation, car il n'y a pas de stand de nourriture autour de cette plage. Si, avant de visiter, vous faites attention à cette souche, vos vacances seront plus confortables et mémorables. Chers amis, c'était le magazine culturel.
Saat ku melihat
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Et pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur, informant sur bonnes nouvelles venant du monde de l'art indonésien. Le monde du cinéma en Indonésie et dans le reste du monde connaît en effet un déclin en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19. Cependant, ce n'est pas un obstacle pour les cinéastes indonésiens à réussir sur la scène internationale. Après le succès du célèbre réalisateur Joko Anwar avec Perempuan Tanah Jahanam, d'autres bonnes nouvelles sont venues de Dibal Rano et Dian Bokir. Tous deux ont réussi une compétition de films sur le thème de la danse qui s'est ouverte en juin 2020. Le concours a été créé par le réseau international Eurasia Dance Project, EDPIN, un organisme italien dirigé par un maestro international de la danse, Stefano Fardelli. Il y a 18 pays partenaires de l'EDPIN qui viennent de diverses régions, à savoir l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique et les pays du Pacifique et d'Amérique centrale. Le concours réalisé par EDPIN se concentre sur les films sur le thème de la danse. Cet événement a été organisé pour aider les étudiants et les danseurs d'Eurasia à continuer de s'exprimer au milieu de la pandémie COVID-19. Sur les 11 finalistes à EDPIN cette année, il y a 3 films de danse représentant l'Indonésie, à savoir Lukat, Penyucian Diri, de Dibal Rano, Look Forward du Dimar Dance Theater, dirigé par Dian Bokir, et Karsa Jaya, a dance film, l'œuvre de Gigi Art of Dance. Sur les 3 finalistes indonésiens, 2 ont été sélectionnés. Le premier vainqueur, Dibal Rano, et la deuxième, Place et Dian Bokir. Lukat de Dibal Rano a remporté la première place avec 2 films italiens, Threesome de Nico Piscopo et 24,42 de Matteo Bitante. Quant à la deuxième place, il y a 2 candidats qui ont été sélectionnés. Look Forward du Dimar Dance Theater, dirigé par Dian Bokir, et Silk Bodies de Natalia Quesada de Mexique. Les premiers chorégraphes gagnants seront invités au Festival international de danse de Gdansk en Pologne qui aura lieu le 3 septembre 2020. De plus, ils recevront également des prix en espèces ainsi que des billets et un hébergement gratuit à Gdansk. Ensuite, pour la deuxième place, le film de danse sera projeté dans 2 festivals, le Festival international de danse de Gdansk et le Centre chorégraphique de Cracovie. En outre, les films qui remporteront cette compétition seront également projetés dans plusieurs pays partenaires d'EDPIN, ce qui sera annoncé à la fin du mois d'août. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Voici le magazine musical et cette édition, je vous présente une chanson de Kroncong intitulée Petir, créée par Sariwono. Cette chanson originale de Kroncong raconte quelqu'un qui essaie de tenir une promesse de rencontrer sa petite amie. Bien qu'il pleuve ainsi que la foudre et le vent fort, il a quand même passé car il voulait rencontrer son amant qu'il avait depuis longtemps quitté. Bon, chers auditeurs, voici Mira Tania, dont le titre est Petir ou en français la foudre.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Gaya daya kenangan.
Bon, chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. À bientôt.